15h.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
L'unique opéra de Beethoven est créé en 1805 à Vienne. C'est un échec parce que les musiciens, aussi bien instrumentistes que chanteurs, considèrent que l'œuvre est très compliquée. Ce sera une critique d'ailleurs récurrente qu'on va adresser à Beethoven qui va répliquer « J'écris pour les générations futures et pas pour les imbéciles qui pianotent pour combler le vide de leur existence plus misérable qu'une dinde de basse-cour ». Voilà ce qui est envoyé. En outre, l'opéra est représenté majoritairement devant les officiers français qui occupent Vienne. Beethoven n'a qu'une seule règle, être fidèle à son art et à ses convictions. Aussi, lorsqu'il se rend chez son mécène, le prince Lichnowsky, et que ce dernier lui demande de jouer devant ses officiers français qui logent au château, Beethoven explose. Il quitte la demeure sur le champ et envoie un billet à son bienfaiteur. « Prince, ce que vous l'êtes par hasard, par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » C'est une époque au cours de laquelle on va se tourner effectivement vers le passé. On ne se tourne plus vers le passé, mais bien vers le futur.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage.
Beethoven a écrit 9 symphonies, 32 sonates pour piano, 10 sonates pour piano et violon, 16 quatuors à cordes, 5 concertos pour piano, un triple concerto, un concerto pour violon et bien d'autres chefs-d'œuvre. Il n'a écrit, par contre, qu'un seul opéra et il lui faudra remanier la partition pendant 10 ans pour en livrer la version définitive.
Beethoven a une insatisfaction permanente, c'est un exigeant de la vie.
La musicologue Florence Badol-Bertrand.
Probablement quand même, malgré toute la joie que nous apportent certaines de ses œuvres, ou toute l'émotion, lui-même avait beaucoup de mécontentement. Je ne crois pas que Beethoven ait été bien heureux. Cette insatisfaction fait qu'il remet sur le métier sans cesse. C'est fascinant, Fidelio, par exemple. Il y a 3 versions. Léonore 1 en 1805, Léonore 2 en 1806, Fidelio en 1814. Alors, la question de cette forme d'opéra, le Singspiel, donc un opéra avec du parler, Singen chanté, Spielen joué, un opéra un peu comme l'opéra comique en France, que ça a été un petit peu compliqué par rapport au message qu'il voulait transmettre, justement, sur l'égalité, sur la fraternité, c'est possible. Et puis il était encore tributaire d'héritage, même de l'opéra bouffa, de conventions qui étaient peut-être un petit peu trop légères pour le cadre, par exemple... Marceline, la fille du gardien en chef de prison, qui a un fiancé sur place, Jacquino, et puis arrive Fidelio, qui est Léonore déguisée en Fidelio, et elle tombe amoureuse de Fidelio, donc une histoire comme ça qui est presque un petit peu grotesque. Il y avait dans la première version un duo d'amour entre Marceline et Fidelio, où Fidelio, qui est quand même là pour délivrer son mari, se trouvait bien ennuyé de devoir faire semblant d'être amoureuse ou amoureux de Marceline. Alors ces aspects-là, Beethoven y renonce parce que la mode évolue entre-temps, mais en même temps la version de 1806, on l'a remontée, elle est magnifique. Pourquoi a-t-il voulu rebattre tout ça, rebattre les cartes, reprendre, pas à zéro, mais enfin en grande partie, distribuer en 3 actes au lieu de 2, ajouter, supprimer, etc. En 1814, il est même possible que la version de Léonore II, donc celle de 1806, passe mieux à la scène, par exemple, qui est une énergie dramatique, le Fidelio, proprement dit, parfois est un peu statique, tient peut-être parfois plus de l'oratorio. Une version intermédiaire, dans ce cas-là, est bonne aussi.
Vous savez, finalement, il y a deux sortes de courants de compositeurs. Il y a ceux dont on a l'impression qu'ils sont des canaux divins.
Le pianiste Pascal Amoyel.
Mozart, pour qui tout coule de source. Chopin, Schubert, et puis d'autres comme Franz Liszt, Ludwig van Beethoven, qui on a l'impression qu'ils partent de la glaise pour aller jusqu'aux cieux, jusqu'aux cimes et permettre aux hommes de pouvoir les suivre. Et moi, c'est ce qui me touche vraiment. Enfin, j'adore aussi Schubert, Mozart, bien entendu. Mais je trouve qu'il y a un côté très humain dans leur musique. On a l'impression d'être à leur côté et de les voir presque comme des artisans en train d'essayer de construire un édifice qui permettra peut-être aux hommes de rester sur la dernière marche.
On pourrait déceler dans la musique de Beethoven un chemin vers la lumière. Ce chemin serait symbolisé par les registres, les basses incarneraient les ténèbres et les aigus, la lumière.
C'est tout à fait attesté par l'opéra Fidelio,
le musicologue Bernard Fournier,
dans lequel les prisonniers qui sont dans les cachots sombres sont quand même autorisés à monter à la lumière au premier acte. Et puis, de manière générale, le trajet de l'opéra, c'est bien un trajet de l'ombre vers la lumière, aussi bien pour les prisonniers que pour le fameux prisonnier Florestan, que Léonore va venir libérer. Cet opéra, Léonore, Fidelio plutôt, c'est donc l'histoire d'une femme au sens épouse, qui veut sauver son mari injustement emprisonné dans une prison par un tyran. Donc Léonore se déguise en homme, sous le nom de Fidelio, et se fait engager comme gardien, auxiliaire, auprès du gardien-chef Rocco. Et puis, on ne voit pas Florestan, qui n'apparaît qu'au deuxième acte. Il est enchaîné dans sa prison, parce que le directeur de la prison, Pizarro, le hait, pour des raisons personnelles, et veut le tuer. Et donc, dans une grande scène du deuxième acte, après avoir entendu un monologue de Florestan au début de l'acte, qui est déjà tout à fait du Wagner, c'est d'ailleurs la tessiture des ténors wagnériens. Florestan, c'est déjà Siegfried, au point de vue de la tessiture et de la vocalité. Eh bien, au bout d'un certain temps, Léonore entre dans le cachot, sans être reconnue. Léonore entre sous le déguisement de Fidelio. Donc Florestan ne la reconnaît pas. Et puis Pizarro arrive pour le tuer avec un poignard. Il est ici, Erterbe, qu'il meurt. Et donc il y a une scène très dramatique, son monologue, et donc il va pour le tuer. Et à ce moment-là, Léonore s'interpose. C'est une scène extrêmement violente. Et elle dit « Töt erst sein Weib ». Tue d'abord sa femme. Et elle dit ça dans une sorte d'a cappella. L'orchestre s'arrête et on entend ce cri. Et c'est déjà le cri de Brunehilde, de Kundry. Donc là encore, on est dans une préfiguration wagnérienne. Et d'autre part, je voudrais dire, avant la scène du pistolet, où Léonore sauve son mari, mais elle le sauve symboliquement, parce qu'en fait, il n'est sauvé réellement que par l'arrivée du ministre, dont on entend l'arrivée annoncée par les trompettes, ces fameuses trompettes que tous les auditeurs s'étonnent peut-être d'entendre derrière les coulisses dans l'ouverture Léonore III. Donc, avant cette scène, il y a une très belle scène qui montre encore le côté christique de Beethoven, parce que avant que Fidelio se soit fait reconnaître dans cette scène terrible où elle dit « Töt erst sein Weib », il y a une scène où elle est avec Rocco, elle veut donner à manger et à boire à son mari. Elle lui donne du pain et de l'eau. Et donc, il y a une espèce de poétique du don qui est tout à fait sublime et tout à fait émouvante. Florestan, qui n'a pas reconnu sa femme, bien sûr, remercie cette personne si humaine. Donc, il y a une espèce d'exaltation de l'humanité, au sens de être humain, dans cette scène qui est de toute beauté.
Beethoven est héritier d'une symbolique instrumentale qui lui vient des classiques, bien sûr, de Mozart, de Haydn, mais aussi de codes un peu européens qui circulent, qui font partie de la culture de l'époque, qui nous sont parfois un peu difficiles à retrouver aussi aujourd'hui. Par exemple, le hautbois, qui est un instrument qui vient de France, son nom en atteste, puisqu'on dit hobo par assonance phonétique dans toutes les autres langues d'Europe, hein, en italien, en allemand, en anglais, en espagnol. Bon, alors même si on a un petit peu oublié au 19e siècle cette origine, il y a quand même cette assonance. Et en France, on a utilisé le hautbois avec des codes, évidemment le code de la pastorale, ce que Beethoven utilise aussi, ce qui est un peu implicite, ce qui là encore fonctionne vraiment pour l'auditoire de l'époque, puisque à l'origine, on se plaisait au début du XVIIIe siècle à imaginer que les hautbois étaient fabriqués par des bergers qui gardaient leurs troupeaux avec la matière première qu'ils avaient sous la main. Donc du roseau, du bois, voilà, tous les instruments dits de la pastorale. Et c'est vraiment comme ça que Beethoven utilise ces instruments, justement dans sa symphonie pastorale, sa sixième. Et on a pris aussi l'habitude d'utiliser le hautbois comme symbole d'espérance. Et ça, c'est un compositeur français qui explique ça, mais c'était un code qui était implicite à l'époque. Donc Grétry, dans ses mémoires, explique le hautbois champêtre et gai exprime aussi la lumière dans les tourments. Et donc, quand on entend un hautbois chez Beethoven, il y a cette idée-là qui est sous-jacente, qui est une espèce de repère culturel, un code culturel de l'époque. Par exemple, quand Florestan, l'époux de Fidelio, retrouve dans sa poche, au début du deuxième acte de Fidelio, le portrait de son épouse, c'est un grand solo de hautbois, et ça veut dire qu'il est en train de reprendre espoir. Et il n'y a pas besoin, à l'époque, de donner des mots. Il n'y a pas besoin d'expliquer, cette sonorité même du hautbois renvoie à cette idée de, voilà, le hautbois exprime la lumière dans les tourments. Et il y a ce type de message aussi, un peu subliminal finalement, enfin en tout cas codé, là encore, un code ponctuel qu'on a pu perdre entre-temps, sur l'utilisation de décors. La réexposition de la troisième symphonie, le premier mouvement, c'en est un exemple. Et puis, par exemple, dans le premier mouvement du concerto L'Empereur. Le premier mouvement du concerto L'Empereur commence dans une espèce de... pas de brouhaha, mais bon, le piano a commencé seul, une espèce de tourment, tout est agité. Et tout à coup, on entend les cors, comme un petit peu de loin, parce que les cors ont le pavillon qui est opposé au public, donc le son semble souvent un peu lointain. Et voilà, les cors remettent de l'ordre dans tout ça, avec un petit élément de sonnerie qui pourrait être joué dans un contexte de chasse. Et tout à coup, le discours reprend sa place, comme si... le symbole faisait que l'espoir était aussi possible. Et Beethoven utilise les cors également dans ce sens-là, dans sa troisième symphonie, le trio du scherzo de la troisième symphonie. Et c'est d'une modernité, c'est très très moderne pour l'époque. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment des couches d'écriture, avec une écriture pour le premier corps qui est dans l'aigu, et le troisième qu'il soutient. Et puis le deuxième corps, lui, est dans le grave. Et il est le premier à utiliser toute la palette possible du corps, qui est très large. Et ces corps, donc associés quand même à la symphonie héroïque, c'est la première fois qu'ils sont trois à l'orchestre, sont aussi associés dans le Fidelio, au personnage de Fidelio, justement. Dans le grand air de Fidelio, où elle est désespérée parce qu'elle a pu faire sortir tous les prisonniers, ce qui nous vaut ce grand beau cœur très célèbre, ce cœur d'homme, cœur de prisonnier. Et il n'y a pas son mari parmi eux, et donc il y a un moment où elle est à la fois en révolte contre celui qui l'a fait emprisonner, qui s'appelle Pizarro, et désespérée. Et c'est comme si les corps qui sont à l'orchestre, qui sont supposés être donc en fosse, en contrebas, sous la scène, lui réinsufflaient l'espoir. C'est toute cette puissance des instruments, puis cette osmose de l'écriture, donc... à trois corps. Et Beethoven est en train d'ouvrir là la palette de l'orchestre du romantisme allemand, parce que dans le cas du romantisme allemand, Schubert pour commencer, Schumann et Brahms et Mahler et Bruckner, et puis indépendamment de la symphonie, Wagner font un usage quasi continu du corps, et très souvent avec cette symbolique là.
Halt, 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 halt
Fidelio est représenté au Théâtre an der Wien en 1805 et c'est un échec. L'orchestre est médiocre, les instrumentistes aussi bien que les chanteurs se plaignent de la difficulté de leur partie et en plus, le public qui est venu assister à la représentation est en majorité composé d'officiers français.
La proclamation de l'Empire français a été reconnue, on va dire, par les États moyens.
L'écrivain et historien français, spécialiste de l'histoire du Consulat et du Premier Empire, directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lenz.
Européen, c'est-à-dire la plupart des États allemands, y compris la Prusse d'ailleurs. En revanche, elle n'a pas été reconnue par l'Autriche et la Russie. Par ailleurs, l'Autriche et la Russie s'inquiétaient beaucoup de certaines avancées françaises, notamment en Italie, parce que beaucoup de régions italiennes étaient sous domination française, et par exemple la région de Gênes a été annexée au début de 1805. Alors on a saisi ce prétexte, à Vienne comme à Saint-Pétersbourg, pour reprendre la guerre contre la France. Vienne reprend la guerre non pas pour défendre les vieux principes et l'ancien régime contre les idées de la Révolution, enfin c'est une simplification absolue, en fait c'est pour des raisons de géopolitique. La première, elle se trouve en Italie, on vient d'en parler, et puis la seconde se trouve en Allemagne, parce que toute une partie de l'Allemagne, on va dire le sud et une grande partie de l'ouest de l'Allemagne, étaient politiquement attirés par la France. Non pas parce qu'ils aimaient les Français, hein, la politique étrangère, c'est pas se faire des bisous, c'est pas s'aimer, mais c'est avoir des intérêts. Or, les intérêts de cette Allemagne ouest et sud, était d'échapper à deux prédateurs de l'Allemagne qui étaient des prédateurs anciens, l'Autriche avec son Saint-Empire romain germanique, et puis la Prusse qui commençait à prendre une grande importance au nord. Alors au fond, les Allemands se tournent vers le troisième partenaire possible qui est la France. Et ça, évidemment, ça va contre les intérêts de Vienne. Hein. Intérêts qui sont blessés en Italie, intérêts qui sont blessés en Allemagne, donc Vienne va prendre l'offensive, c'est ça qu'il faut toujours voir. C'est les premières guerres napoléoniennes sont des guerres qui ont été imposées à Napoléon. Vienne envahit la Bavière, alliée de la France, on l'oublie aussi toujours, grand État allemand, allié de la France, et c'est pour venir au secours de la Bavière que Napoléon quitte ce qu'on appelait le camp de Boulogne, où il avait massé son armée pour envahir l'Angleterre, va traverser l'Europe en quelques semaines et va pulvériser les armées autrichiennes jusque à entrer dans Vienne au mois d'octobre 1805.
Le pauvre Ries, mon élève, doit dans cette malheureuse guerre prendre le mousquet sur l'épaule et en même temps partir d'ici quelques jours comme étranger. Beethoven.
Après que Napoléon eut pris Vienne, il avait battu entièrement l'armée autrichienne, il lui restait quand même un problème sur les bras, c'était l'arrivée de l'armée russe. En fait, les Autrichiens ont été battus parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre les Russes. Il reste encore l'armée russe, en direction de laquelle Napoléon va se rendre depuis Vienne, et en essayant de lui couper la route, c'est-à-dire dans l'actuelle République tchèque, autour de ce petit village d'Austerlitz, en territoire dominé par les Habsbourg, mais à ce moment-là, donc, submergé, on va dire, par la marche de l'armée russe, à laquelle est encore jointe un petit corps autrichien qui a pu échapper au désastre précédent. Et c'est le 2 décembre 1805, c'est-à-dire le jour anniversaire de la cérémonie du couronnement à Notre-Dame, que Napoléon va remporter cette grande victoire d'Austerlitz, probablement sa plus grande victoire. Non pas tant d'ailleurs parce qu'il va pulvériser l'armée adverse, mais c'est parce qu'il va, par une tactique très particulière, par un sens de l'improvisation très supérieur, il va disloquer ces troupes-là. La bataille d'Austerlitz est une bataille peu meurtrière pour l'époque. On a recompté aux morts près les morts français, on est aux alentours de 1500. Évidemment, ça fait beaucoup de monde en une journée, mais bon, regardez les journées de 1914 ou de 1939-45. On a peu de morts et pourtant la victoire est totale. C'est-à-dire que l'armée ennemie est coupée en deux, la partie autrichienne de cette armée, alors là, est complètement détruite. Et les Russes peuvent se replier, mais ils ont été sérieusement secoués. Donc ça va provoquer immédiatement une demande de paix de l'Autriche. Elle n'a plus d'armée, son territoire est occupé. Et puis la Russie va replier ses forces vers son territoire et ne reprendra la guerre que à peu près 9 mois plus tard. Les montées en grade, sans tenir compte de l'origine sociale, sont surtout le fait de la Révolution française. La Révolution française, d'ailleurs, ne l'a pas fait par grandeur d'âme, mais elle l'a fait par nécessité. Au début de la Révolution, on a exécuté et on a renvoyé à tour de bras tous les officiers qui avaient été formés dans les grandes écoles de l'Ancien Régime, et généralement parce qu'ils étaient nobles. Donc il a bien fallu les remplacer par d'autres, et donc il y a eu une espèce d'aspiration vers les hauts grades. Au moment où Napoléon arrive au pouvoir, on le sait parce que des études ont été faites là-dessus, la moyenne d'âge des généraux, il y en a à peu près 1500, 1600 dans l'armée française, la moyenne d'âge est d'à peu près 40 ans. Donc l'idée que tout ça, ce sont de jeunes gens qui partent à l'aventure, qui n'ont presque pas d'expérience, qui vont monter en grade, vous savez l'histoire du bâton de maréchal dans la giberne, elle est très très largement exagérée. Il n'y a aucun simple soldat n'est devenu maréchal sous Napoléon, hein, il faut quand même le dire. Ils étaient tous déjà des officiers supérieurs, alors peut-être pas distingués au sens de l'Ancien Régime, mais en tout cas déjà blanchis sous le harnais dans les guerres de la Révolution.
Des officiers français sont logés au château du prince Lichnowsky. Et il se trouve que Beethoven quitte Vienne et qu'il prend justement le chemin de la Silésie pour aller chez Lichnowsky. Il y reste 2 mois. Les événements politiques, eux, se poursuivent. Le roi de Prusse a posé un ultimatum à Napoléon. Il veut que Napoléon évacue l'Allemagne jusqu'au Rhin. L'ultimatum prend fin le 8 octobre 1806 et 3 jours plus tard, le prince Louis-Ferdinand est tué à Saalfeld. Encore un peu plus tard, le 14 octobre, Napoléon à Iéna et Davout à Auerstadt anéantissent l'armée prussienne. À la fin du mois, les troupes françaises occupent une bonne partie de la Prusse, dont la Silésie. Voilà de quoi commencer à sérieusement agacer Beethoven, qui est donc, lui aussi, en Silésie, chez Lichnowsky, avec les occupants français.
Beethoven,
Bernard Fournier,
c'était quelqu'un de pas commode et qui ne transigeait pas sur ses idées. Il avait été très bonapartiste et il avait été extrêmement blessé par le fait que Bonaparte s'était fait couronner empereur. Et donc, après le couronnement de Bonaparte en Napoléon, il était devenu un farouche opposant aux Français. Or, en 1806, les Français occupaient Vienne. Et son protecteur, le prince Lichnowsky,